qu'ils ne soient pas seulement châtiés comme des chiens enragés, mais jugés avec le droit, jugés avec des preuves, jugés avec la conscience des hommes.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Nuremberg et Tokyo, comment a-t-on jugé les crimes de la Seconde Guerre mondiale? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historienne Annette Wiewiórka. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode, l'épilogue du procès de Tokyo. Plus long que celui de Nuremberg, le procès de Tokyo, débuté en mai 1946, s'achèvera en avril 1948. C'est d'abord la politique expansionniste du Japon qui est mise en cause depuis les années 30 jusqu'à 1945. Le procureur Kinan revient d'abord sur l'invasion de la Mandchourie de 1931, menée par une armée de 40 000 soldats qui a conduit à l'occupation du nord-est de la Chine. Est appelé alors à la barre un personnage exceptionnel qui attire tous les regards, Puyi, le dernier empereur de Chine que les Japonais ont placé sur le trône du royaume fantoche de Manchukuo. À la barre, Puyi désigne sur le banc des accusés les responsables japonais auxquels, sous menace de mort, il devait obéir. Autre moment fort, l'évocation du sac de Nankin en décembre 1937. Après la Mandchourie, les Japonais ont poursuivi leur invasion de la Chine et, arrivés à Nankin, ont commis un massacre. 200 000 civils et prisonniers chinois sont sauvagement tués et entre 20 000 et 80 000 femmes et enfants violés par les soldats de l'armée japonaise. Au procès, le témoignage d'un missionnaire américain présent alors à Nankin et qui a pu filmer le massacre est accablant. Appelé à la barre, le général Iwane Matsui, qui commandait les troupes japonaises à Nankin, décline toute responsabilité dans les massacres.
Accusé Iwane Matsui, selon les termes de l'instruction sur la base de laquelle vous avez été déclaré coupable, le tribunal militaire international de l'Extrême-Orient vous condamne à la mort par pendaison.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Autre crime de guerre évoqué au procès de Tokyo, le traitement inhumain infligé par les Japonais à leurs prisonniers. À la barre, un soldat américain raconte notamment ce que fut en avril 1942 la marche de la mort de Bataan. Une marche forcée de jour et de nuit, sans eau ni nourriture, ponctuée d'actes de torture et de sauvagerie, où près de 10 000 prisonniers, américains et philippins, ont trouvé la mort.
Responsable, mais non criminel. C'est ainsi que se juge lui-même l'amiral Tojo. Il était président du Conseil du Japon lorsqu'il avait ordonné l'attaque sur Pearl Harbor. Les Américains ne lui pardonneront jamais cette agression. Tout recours en grâce auprès de la Cour suprême des États-Unis ou du général MacArthur se heurtera à la plus froide détermination.
Mais pour les Américains, l'objet essentiel du procès de Tokyo est de voir condamner les responsables de l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Une attaque surprise qualifiée par les juges de crime contre la paix. Le 27 décembre 1947, l'audition de Hideki Tojo, qui était premier ministre japonais pendant la guerre, fait sale comble. D'autant, on le sait, que Tojo, avant le procès, a tenté de se suicider en se tirant une balle dans la poitrine, mais la balle a raté le cœur et il a été sauvé par les soldats américains venus l'arrêter. Très digne dans son uniforme kaki, ce petit homme au visage intelligent et impassible affirme que cette guerre était purement défensive pour protéger le Japon. Sur la question de la responsabilité, lors de son premier interrogatoire, il déclare, je cite, « que nul ne pouvait s'opposer à l'empereur », ce qui signifie que seul Hirohito pouvait ordonner de bombarder Pearl Harbor ou de mettre fin à la guerre. Mais lors d'un second interrogatoire, Tojo se rétracte et affirme au contraire que son empereur a toujours été un homme de paix. Il prend donc sur lui l'entière responsabilité de la guerre et conclut par ces mots « Je pense que je n'ai rien fait de condamnable, seulement ce qui était juste et vrai ». Tojo sera condamné à mort et pendu en décembre 1948, comme les autres condamnés du procès. Après avoir été incinéré, ses cendres ont été dispersées dans l'océan Pacifique. Annette Wiewiórka, quelle est la part réelle de la responsabilité de l'empereur Hirohito dans le déclenchement de la guerre et comment expliquer que cette responsabilité soit totalement absente du procès?
quelles qu'étaient les responsabilités réelles de l'empereur, c'est pas ça qui est en question. Ce qui est en question, c'est le maintien d'une société japonaise et la démocratisation de la société japonaise. Même s'il avait été totalement coupable de ce qu'avaient fait les militaires japonais en envahissant la Chine, enfin le Manchukuo, le nord-est de la Chine en 1931, ou avec Pearl Harbor, qui intéresse beaucoup les Américains, ou responsable de ce qu'on appelait le sac de Nankin, les massacres de Nankin, en décembre 1937. Finalement, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de faire passer le Japon de cette société qu'on considère comme un peu féodale et militariste à une démocratie. C'est ça le problème de MacArthur. Donc, c'est ce qui est décidé avec une sorte de consensus qui est de ne pas toucher à Hirohito, même si les juges vont beaucoup en discuter. Mais pour les juges, le problème, il est même ailleurs. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de juges, notamment le juge indien, le juge français, Bernard, qui récuse même l'idée qu'on puisse accuser d'une guerre d'agression. Parce qu'ils estiment que la guerre d'agression n'est pas définie en droit au moment de l'agression, et qu'il n'y a aucune raison d'accuser de guerre d'agression. Et à la différence de Nuremberg, les juges vont s'opposer les uns aux autres. Le juge des Pays-Bas va être opposé à l'accusation de guerre d'agression, et le juge indien va considérer qu'à cause de tous les relents coloniaux de ce procès où les hommes blancs sont quand même extrêmement majoritaires, aucun des accusés japonais ne doit être condamné. On n'a pas eu ça à Nuremberg.
Oui. Alors, parmi les faiblesses du procès de Tokyo, on a souvent mis en cause le silence sur ce qu'on appelle l'unité 731, une unité de recherche bactériologique basée en Mandchourie par mandat impérial, qui était dirigée par un chercheur, un japonais, Shiro Ishii, dont les recherches, notamment sur la peste, avaient pour but de fabriquer des armes bactériologiques. C'est terrible, hein, y a des injections de sérum qui ont été empoisonnées, qui ont été pratiquées sur des civils chinois, qui servaient donc de cobayes. Pourquoi est-ce que ce sujet n'est pas arrivé dans les discussions?
Alors, il est possible que, un petit peu comme la chose a été faite pour le personnel allemand qui travaillait notamment à Dora, il est possible que, si je peux employer des termes un peu pudiques, que le transfert de technologie qui se soit fait entre les nazis et les Américains ou entre les savants japonais et les Américains et plus intéressé que de mettre en accusation.
Je crois que Shiro Ishii a obtenu des Américains l'immunité en échange du résultat de ses recherches.
En échange du résultat des expérimentations. L'autre partie qui n'a pas du tout été mise, c'est la question des femmes de confort, c'est-à-dire des Coréennes qui ont été prostituées. Et ça, c'est une affaire qui revient constamment.
Oui, régulièrement. Ouais.
Constamment, régulièrement. C'est-à-dire que c'est une des revendications de la Corée. Ça permet de dire que aussi bien le massacre de Nankin que les femmes de réconfort, que l'immunité, le culte qui a été fait pour les chefs militaires, sont quand même des sujets récurrents en Asie, en Corée, en Chine et au Japon.
Pour conclure, Annette Vievurka, est-ce qu'on peut dire quand même que ce procès de Tokyo a permis l'émergence d'un nouveau Japon, moderne et démocratique, comme le voulait MacArthur ?
Alors je pense que ça a été un des éléments qui a permis effectivement le nouveau Japon, même si ce procès a été extrêmement imparfait, beaucoup plus d'ailleurs que le procès de Nuremberg.
Merci Annette Vievurka. Pour en savoir plus, je renvoie à la lecture de votre livre « Le procès de Nuremberg », disponible aux éditions Liana Levy. À lire également « Nuremberg, la bataille des images » de Sylvie Lindeperg, disponible en poche dans la petite bibliopayo, et « Le procès de Tokyo » d'Étienne Jodel aux éditions Odile Jacob. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin, à la technique Fabrice Desmaz et Titouan Labarre. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. J'attends vos commentaires sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook.